Nous parlions à l'instant de la crise que traverse en ce moment l'UMP. Dernièrement, on l'a dit, Nicolas Sarkozy est sorti de son mutisme post-présidentiel pour donner son avis sur la situation que traverse actuellement son parti et tenter de la régler, donnant ainsi raison en quelque sorte à Amos, qui dans son dernier éditorial consacré au sujet parlait justement du fantôme de Nicolas Sarkozy qui planait derrière ses élections à la présidence de l'UMP.
Alors Amos est avec nous, puisque vous le savez maintenant, nous accueillons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
Bonjour Amos.
Bonjour Thomas.
Alors, un petit peu désespéré par la politique française, me semble-t-il.
Désespéré, mais dans la politique, on trouve toujours le réconfort.
Ben, j'espère bien.
La politique française est d'une tristesse immense. Est-ce la Ve République? Est-ce le passage au quinquennat? Est-ce plus profondément le pathétique destin des démocraties modernes? Le fait est que les coqs pensent avant tout à leur gras plumage. La politique est devenue carrière individuelle, plus que recherche concertée du mieux-être commun. Ce qui apparaît dramatiquement à l'UMP ne fait que refléter une bien triste réalité politique. Le nombril prime la pensée, la sagesse s'efface derrière le médiocre visage individualiste. Combien de couleuvres intellectuelles la soi-disant écologiste Cécile Duflot a-t-elle dû avaler pour pouvoir jouir de son petit maroquin ministériel? Quelle tragique compromission l'avocat Gilbert Collard a-t-il dû accepter pour siéger au Parler Bourbon aux côtés de la petite fille du Borgne? Il y a de quoi désespérer de la politique, de ces hommes et de ces femmes qui pensent à leur petit avenir bourgeois plus qu'à l'horizon d'une société, d'un monde à construire. Où retrouver l'espoir, la force de se battre? Comment retrouver le courage de croire tout simplement la capacité des hommes à changer le cours des événements? En ces temps de grands désenchantements, c'est une merveilleuse découverte littéraire qui m'a redonné espoir. C'est un texte perdu retrouvé, un faux devenu vrai, une chasse qu'on croyait infinie qui semble finir en apothéose. La chasse spirituelle, texte mythique et qu'on croyait perdu d'Arthur Rimbaud, aurait été retrouvé. Mieux, le texte de la chasse spirituelle, qui était apparu comme un faux en 1949 et qui fut considéré comme tel jusqu'à aujourd'hui, serait en réalité un vrai Rimbaud. C'est ce qu'une édition à paraître le 5 décembre semble révéler. Le 5 décembre, c'est donc bien un nouveau texte d'Arthur Rimbaud qui va paraître, la chasse spirituelle 140 années après sa date supposée d'écriture. Quel rapport, me direz-vous, entre cette réapparition d'un poème de l'enfant de Charleville et la politique? Eh bien, c'est une question de jaillissement, de révélation. Rimbaud est ce chasseur spirituel capable d'ouvrir de nouveaux horizons, d'inventer sans cesse de nouveaux mondes. Ce contemporain de la commune n'aspirait-il pas à changer la vie? Et qu'en 2012, encore, des textes d'Arthur Rimbaud puissent réapparaître comme magiquement, n'est-ce pas le signe que le naufrage n'a pas tout emporté? L'espoir n'est pas mort. Dès lors, cessons d'accepter l'inacceptable, d'accepter les mots trompeurs, les paroles en l'air qui ne font que perpétuer la domination. Il y a quelques semaines, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, parlait d'une révolution copernicienne qu'aurait accompli le gouvernement. Révolution copernicienne. Une révolution dans les mesures visant les entreprises. Drôle de conception de la révolution que celle de l'ancien bras droit de Dominique Strauss-Kahn. En effet, pour le ministre, cette révolution copernicienne consiste en la mise en place d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Drapeau déployé, point levé. Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi destiné aux entreprises. Voilà la révolution copernicienne à laquelle l'époque aurait le droit. De quoi marquer la grande histoire. Encourager la compétitivité des entreprises en vue de stimuler l'emploi? Quelle grande idée, monsieur le ministre! Quelle audace! Quelle révolution copernicienne! En somme, pour Moscovici, rien de mieux pour résoudre la crise que de reprendre les recettes qui l'ont justement rendu possible. Encourager toujours plus la compétitivité des entreprises au détriment de la protection des salariés, défendre la concurrence, oublier les travailleurs, les hommes et les femmes. La révolution moscovicienne n'est rien d'autre que la perpétuation du modèle libéral qui nous a conduits dans le mur. Bref, l'imagination au pouvoir, ce n'est pas pour aujourd'hui, surtout lorsqu'à l'autre bout du gouvernement, c'est la bonne vieille nationalisation de Florange qu'Arnaud Montebourg nous propose, 20e siècle. Quand tu nous tiens, ce sont bien ces carcans économiques, ces œillères qui empêchent d'imaginer et de construire le monde du nouveau millénaire. Mais le gouvernement n'a pas le monopole de l'esprit borné. En effet, dans un autre registre, on continue d'entendre, venu d'une certaine droite nationaliste, le son des trompettes de la haine, de la peur fétide, d'une angoisse qu'on peut imaginer pathologique et qui dit la tentation de l'emmurement, du refus de l'autre, des portes à jamais fermées. Pour certains de nos concitoyens, en effet, une France forte ou une plus grande France, c'est selon, serait avant tout une France débarrassée de ceux qu'ils considèrent comme une menace intérieure. La communauté musulmane, qu'on accuse sans preuve, parfois même sur cette même onde, de soutenir à demi-mot les violences terroristes commises au nom de l'islam. Une communauté musulmane accusée de tous les maux du pays et qui subit attaques et menaces. Les cimetières musulmans sont profanés, les discriminations demeurent la réalité quotidienne pour de nombreux musulmans français. Alors, quand on entend certains agiter le drapeau du temps du rejet contre la communauté musulmane française, on ne peut que s'inquiéter. S'inquiéter des conséquences de ces paroles, cette quête d'un bouc émissaire, d'un ennemi de l'intérieur défini du seul fait de son origine et qui peut conduire à la plus arbitraire des violences, témoignant de la plus funeste des fermetures d'esprit. Évidemment, pour ces avocats de la peur, les révolutions du monde arabe sont avant tout le creuset du djihadisme, du salafisme, comme s'ils ne pouvaient pas accepter l'audace du soulèvement de peuples libres révoltés après des décennies de dictature de l'autre côté de la Méditerranée. C'est qu'il est bien difficile d'apprécier l'essor de la liberté, de saluer l'inattendu, d'embrasser le parti de la révolution qui vient. Car de la révolution copernicienne de Moscovici au harangue raciste du Front National Bleu Marine, ce ne sont que mots creux, délires et fausses solutions qui nous sont assénés. Plus que jamais, il est temps d'imaginer d'autres discours, d'autres solutions, de faire le pari de la légèreté, de la fraternité, de l'altérité. Seul moyen de construire l'Europe, de faire émerger la Méditerranée. D'inventer le monde. Pour cela, il faut de l'audace, de l'invention et un peu de courage. Il y a quelques mois, un candidat fort sympathique à la présidentielle ne nous proposait-il pas d'emmener l'Europe sur Mars ? La tragédie est qu'il est de bon ton de rire d'un homme politique qui se propose d'élargir l'horizon. Certes, il est d'autres rives, aurait écrit Arthur Rimbaud.
Merci Amos pour ce billet où tu nous rappelles que le poète avait cette injonction, trouver une langue, et selon toi donc, en politique plus que jamais, c'est l'imagination qu'il faut retrouver, et ça, sans langue de bois.